Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous fêtons aujourd'hui la fête du précieux sang. Le fêtons-nous parce qu'il a coulé dans les veines de notre Seigneur Jésus-Christ ? Non, pas uniquement. Si nous le vénérons, c'est en tant qu'il est versé et versé en sacrifice pour nous sauver. Si le précieux sang de Jésus n'avait pas coulé, si Jésus s'était contenté de rendre son âme à Dieu, nous n'aurions pas la messe. Nous n'aurions même aucun sacrement. Je te montrais, dit Dieu le Père à Sainte Catherine dans le dialogue, le corps mystique de l'Église sous la forme d'un cellier qui renfermait le sang de mon Fils unique. C'est ce sang qui fait la valeur de tous les sacrements, qui ne contiennent la vie que par la vertu du sang. Et ce qui est vrai pour les sacrements, l'est vrai aussi pour les sacramentaux. Une petite astuce pour mieux profiter, par exemple, de l'eau bénite. Lorsque vous prenez de l'eau bénite chez vous ou en rentrant dans l'église, vous pouvez avoir cette petite formule, la répéter à vos enfants. Par cette eau bénite et votre sang adorable, ô mon Sauveur, purifiez mon âme de tous ses péchés. Cela empêche la routine et permet de réveiller notre foi. Donc nous vénérons le sang de Jésus-Christ parce qu'il a été versé pour nous racheter. Et les modernistes s'exclameront d'horreur. Comment ? Dieu le Père, qui exige un sacrifice humain, le sacrifice de son propre Fils. Nous arrivons à la question, pourquoi ? Pourquoi fallait-il que le sang soit versé pour nous racheter ? Eh bien, chers parents, imaginez, pendant des années, vous avez fait des économies, vous avez mis de l'argent de côté. Vous avez économisé jour après jour, heure après heure, pour mettre un peu d'argent de côté. Et enfin, après bien des années, vous réalisez votre rêve, vous achetez une statue magnifique, une très belle statue, une statue très chère. Vous l'installez joyeusement dans le salon et à ce moment-là, les deux petits derniers passent en trombe, ils se poursuivent l'un l'autre, en plein jeu de chevalier, bling, plus de vase. Des années d'économie, d'efforts, réduits en miettes en quelques secondes. Vous ne pouvez pas leur demander d'en racheter, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas en gagner. Et pourtant, votre cœur vous dit qu'il faut leur pardonner. Alors qu'allez-vous faire, chers parents ? Ben, vous allez fixer vous-même, à vos enfants, la réparation qui permettra de tourner la page, de leur pardonner, de ne plus y penser. Eh bien, c'est la même chose avec le bon Dieu. Par nos péchés, nous enfonçons Dieu, et Dieu est infini. Donc le péché a une gravité infinie. Nous ne pouvons pas le réparer. Alors c'est Dieu qui va intervenir pour nous fixer lui-même quel est le prix à payer pour pouvoir être sauvé. Saint Paul nous en prévient dans l'Épître aux Hébreux. Sans effusion de sang, point de rémission. Après le péché, Dieu promulgua la grande loi de l'expiation par des sacrifices sanglants. D'après la loi, dit Saint Paul, tout se purifie avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Et dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, il montre bien que dans l'Ancien Testament, tout se purifiait par le sang, qui puisait son prix, qui puisait son efficacité dans le précieux sang de Jésus-Christ qui allait couler à l'avenir. Alors, si nous vénérons le sang de Jésus-Christ en tant qu'il est versé pour nous, comment bien le vénérer ? La réponse semble évidente. Si c'est le prix de notre rachat, si nous le vénérons en tant qu'il est offert en sacrifice, c'est en assistant souvent et activement au renouvellement sanglant du sacrifice, au renouvellement non sanglant du sacrifice, c'est-à-dire à la messe, que nous entourerons de notre reconnaissance le plus grand gage d'amour que nous ait donné notre doux Sauveur. Nous avons dit que si Jésus n'avait pas versé son sang au calvaire, nous n'aurions pas la messe. Essayons de mieux le comprendre pour faire grandir notre reconnaissance et, du coup, notre amour et notre zèle pour la Sainte Messe. Qu'est-ce que c'est que la messe ? Vous savez que la messe est un sacrifice, mais un sacrifice sacramentel. qui va perpétuer en substance, d'une façon non sanglante, l'immolation sanglante qu'a faite la deuxième personne de la Sainte Trinité de son humanité sur la croix, immolation dont il est le mémorial, et qui nous en applique les fruits. Donc la messe est bien un sacrifice d'abord, car elle remplit toutes les conditions. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut quatre choses. Une victime, une oblation ou offrande, un prêtre et une immolation. Quand on prend la messe, la victime est là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre aussi, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les prêtres du monde entier, validement ordonnés, se penchent sur la Sainte Hostie, ils ne disent pas « ceci est le corps ou le sang de Jésus ». Ils disent « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ils agissent in persona Christi. Donc une victime, un prêtre, Jésus-Christ. Une oblation, c'est l'offrande que Jésus a faite de sa vie et de tout lui-même à son Père. Et cet acte n'est pas un acte multiplié, répété, non. Cet acte, ça a été le premier acte de l'âme très sainte de Jésus-Christ lors de l'incarnation, au moment même où l'âme était tirée du néant, qui s'est offerte à son Père, et cet acte d'offrande continue au cœur du Christ jusqu'à présent et dans l'éternité. Et enfin, donc, une victime, une oblation, un prêtre, il faut maintenant une immolation. Dans la messe, ce sera une immolation sacramentelle. Cherchons un petit peu à expliquer sacramentelle. C'est plus facile de comprendre lorsqu'on parle de présence sacramentelle du Christ au tabernacle. Sacramentelle ne veut pas dire que ce n'est pas réel, non. Jésus est vraiment présent sous les espèces du pain et du vin. On a bien une présence réelle. Mais on dit une présence sacramentelle car ce n'est pas une présence naturelle. Mais Jésus est présent vraiment et réellement avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie. Mais ceci ne résout pas tous les problèmes. Une objection qui va naître immédiatement. Tout vrai sacrifice comporte une immolation réelle de la victime offerte. Imaginez qu'un enfant va faire un sacrifice. Il va dire « je vais offrir ma part de dessert ». Il a formulé son intention. Puis au dernier moment, il dit « Jésus, je vous offre ma part ». Puis il la mange quand même. Il n'a pas véritablement immolé sa part de dessert. Il n'y a pas d'immolation. Alors, la réponse. Pour un sacrifice sanglant, il faudra une immolation sanglante. Mais pour un sacrifice qui sera non sanglant, alors, eh bien, on pourra avoir une autre sorte d'immolation. De plus, il peut tout à fait y avoir un vrai sacrifice sans immolation extérieure réelle. Car dans le sacrifice en général, l'immolation extérieure n'est que le signe de l'immolation intérieure du cœur et ne vaut que par cette dernière. Remontons dans les temps, arrivons à Abel et Caïn. Les premiers, ils dressent un autel sur la terre. Les deux ont la puissance d'offrir un sacrifice au Seigneur. Ils prennent chacun une part de leurs produits, de leur troupeau, peu importe, qu'ils vont sacrifier à Dieu. Les deux offrent un sacrifice. Il y en a un qui est accepté, agréé, et l'autre qui est rejeté. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu voit au-delà de l'acte extérieur, il lit dans les cœurs. Et il voyait bien que le sacrifice que Abel faisait signifiait très adéquatement les dispositions de son âme, tandis que Caïn, c'était purement extérieur. Son âme était mauvaise, méchante. Donc, le sacrifice extérieur n'est que le signe du sacrifice intérieur. Comme à la messe, on parle de sacrifice sacramentel, il suffira pour qu'il y ait véritablement un sacrifice d'une immolation sacramentelle. Or, à la messe, la victime est sacramentellement immolée. Comment cela ? Par la consécration séparée du corps et du sang du Sauveur. Alors, c'est vrai, son précieux sang n'est pas physiquement séparé de son corps, mais on peut dire qu'il est sacramentellement répandu. Car formellement, c'est-à-dire en vertu des paroles de la première consécration, « Ceci est mon corps », c'est seulement le corps du Sauveur qui est présent. Et par concomitant, c'est vrai, sont le sang, son âme et sa divinité qui sont injoignablement unis depuis la résurrection. Et en vertu des paroles de la deuxième consécration, c'est uniquement son précieux sang qui est rendu présent. Et par concomitant seulement, son corps, son âme et sa divinité. Et c'est dans cette double consécration du corps et du sang qui vont être sacramentellement séparés que réside l'immolation sacramentelle qui nous donne le sacrifice de la messe. Il y a quelques années, dans cette église, chers fidèles, le foyer célébrait la messe. C'était juste après une messe que nous avions célébrée en communauté, que le célébrant avait célébrée. Et dans la sacristie, il fallait changer les ornements, repréparer les burettes, etc., etc. Et il y a eu un problème avec les burettes. Il y avait un fond de vin qui était resté, et celui qui a rempli n'a pas bien fait attention, il a rempli avec de l'eau. Mais comme il y avait un fond de vin, on ne s'en rendait pas compte. Il y avait encore l'odeur du vin, un peu l'apparence du vin, donc on ne se rendait pas compte que c'était du vin, que c'était, excusez-moi, de l'eau. Et le prêtre donc a préparé le calice, et il a dit les saintes paroles, ce n'est que quand il a consommé ce qu'il croyait être le précieux sang, qu'il s'est rendu compte que c'était de l'eau. Eh bien, ce jour-là, les élèves du foyer n'ont pas assisté à la messe. Ils ont reçu la communion, ils ont communié au corps du Christ, mais le sacrifice n'a pas eu lieu, puisqu'il n'y a eu que la consécration du précieux corps et qu'il n'y a pas eu la consécration du précieux sang. Et le prêtre a dû célébrer de nouveau une messe pour l'intention pour laquelle cette messe avait été offerte. Donc il faut bien comprendre que le sacrifice de la messe réside dans cette double consécration, cette immolation sacramentelle. C'est un sacrement, la messe est un sacrement. Rappelons qu'un sacrement, c'est un signe sensible qui est efficace, c'est-à-dire qu'il va produire les effets de grâce qu'il signifie. Eh bien, Jésus a décidé que pour le sacrement de l'Eucharistie, le signe de son corps et de son sang sacramentellement séparés par la double consécration produirait la grâce du calvaire. Alors si on a bien compris cela, cela va nous pousser à assister à la messe aussi souvent que notre devoir d'État nous le permet. Il n'y a en effet aucune comparaison à établir entre une courte messe basse où le sacrifice même de notre rédemption est rendu présent, où le Christ, souverain prêtre, enferme toutes ses énergies adoratrices à la gloire du Père, tout son rayonnement de vie et de sanctification pour nous, et puis une visite au Saint-Sacrement, un salut du Saint-Sacrement, ou bien une procession, si solennelle soit-il. Parce que là, c'est nous, pauvres pécheurs, qui couvrons la Sainte Hostie de nos humbles adorations humaines, toujours déficientes, si ferventes soient-elles. Donc il nous faut assister à la messe, mieux. Il nous faut participer à la Sainte Messe. Une assistance passive ne nous fera recevoir que peu de grâce. Si trois personnes arrivent près des chutes d'eau du Niagara, qu'il y en a un qui présente un tonneau, le deuxième une carafe et le troisième un dé à coudre, eh bien, ils ne vont pas remporter la même quantité d'eau. Mais ce n'est pas la faute des chutes. C'est simplement le contenant qui va modeler la quantité d'eau reçue. À la messe, c'est le calvaire. Nous avons les grâces que Jésus nous a gagnées au calvaire, des grâces infinies. Mais nous n'en recevons qu'autant que notre âme peut en recevoir. Alors comment faire pour accroître notre capacité de réception, pour pouvoir mieux profiter des grâces du calvaire à la messe? Trois mots. Esprit de foi, communion, union. Esprit de foi. Voyez-vous, c'est la seule plainte, ou presque, et la plus importante, que nous voyons sur les lèvres de Jésus dans l'Évangile. Homme de peu de foi, si vous aviez la foi, si tu peux, si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Nous savons par la foi que nous assistons au saint sacrifice du calvaire. Et il nous faut pour cela montrer tout notre respect et notre piété. Notre respect dans notre maintien extérieur, dans nos génuflexions, dans nos signes de croix, dans nos habits aussi. Les habits du dimanche, si importants, bien s'habiller pour notre Seigneur, s'habiller modestement. Et notre piété, faire ses efforts pour arriver à l'heure, pour lire la messe à l'avance afin de mieux en profiter, en famille si c'est possible. Si ce n'est pas possible de le faire la veille au soir, la plupart d'entre vous, vous avez un certain trajet à faire pour venir ici. Eh bien, pendant que l'un des époux conduit, pourquoi l'autre ne lirait-il pas à la famille, durant le trajet, les textes de la messe, afin de mieux se préparer et de mieux en profiter? Se placer au premier rang, autant que faire se peut, surtout si on a des jeunes enfants, afin qu'ils suivent mieux. Vivre avec les enfants les temps liturgiques. Voilà pour la piété. Donc, d'abord, esprit de foi. Ensuite, communion. Et là, souvent, nous sommes dans l'erreur. Nous assistons à la messe, passivement, et puis ensuite, nous allons communier pour recevoir des grâces. Eh bien non, la communion n'est pas d'abord pour nous. Dieu n'a pas institué la communion d'abord pour nous. Et nous ne communions pas d'abord pour recevoir des grâces. Alors c'est vrai que nous recevons des grâces, et c'est une bonne chose que de communier, si nous n'avons pas la possibilité d'assister à la messe, en dehors de la messe. Mais ça perd un peu de sa signification. Pourquoi devons-nous communier? Si on regarde dans l'Ancien Testament, comment les sacrifices se passaient-ils? Eh bien, les Israélites apportaient au temple un agneau, par exemple. Ils demandaient au prêtre de l'immoler. L'agneau ne faisait que les représenter. Le prêtre, après l'avoir immolé, l'avoir égorgé, en faisait trois parts. La première part était consumée par le feu, c'était la part de Dieu. La deuxième part était offerte par Dieu au prêtre, et le prêtre devait communier à la victime. Et la troisième part, c'était une obligation de par la loi, devait être consommée par la personne qui avait offert. Le sacrifice n'était pas complet si la personne qui offrait n'avait pas communié. C'est dans le livre du Lévitique. Pourquoi? Parce que la communion a plusieurs significations. D'abord, comme la victime ne fait que nous représenter, elle va être immolée à notre place à la justice divine pour apaiser cette justice et retrouver la bienveillance de Dieu. Communier à la victime, c'est nous identifier à elle. D'autre part, lorsque des ennemis irréconciliables arrivent à se pardonner, bien souvent, en signe de réconciliation, on offre un banquet. Les deux se retrouvent auprès d'une table et le banquet est signe de réconciliation. Eh bien, le fait de communier, c'est Dieu le Père qui nous invite à sa table en signe de réconciliation pour nous montrer que nous sommes pardonnés. Enfin, et peut-être le plus important, lorsque nous communions à la divine victime, nous communions à Jésus-Christ et à Jésus-Christ qui s'offre en sacrifice. Jésus ne s'offre pas seul. Jésus offre tout son corps mystique, c'est-à-dire qu'il nous offre, qu'il vous offre, chers fidèles. À la communion, vous vous unissez à cet acte d'offrande du Christ. Vous ratifiez par avance toutes les croix que la Providence suscitera ou permettra pour vous sanctifier. En communiant, vous vous offrez avec l'Immaculée lorsqu'elle a dit son fiat. Vous vous offrez avec Jésus au calvaire. Vous vous laissez offrir à Jésus qui, en même temps qu'il s'offre, offre son corps mystique. La communion va donc nous permettre de nous unir le plus possible au saint sacrifice. Mais il y a aussi, enfin, troisième mot, l'union. Et l'union peut être matérielle ou spirituelle. L'union matérielle, c'est la participation à l'offrande. Autrefois, dans l'Ancien Testament, on offrait une partie de ses biens. On n'allait pas chercher un agneau dans le troupeau voisin pour aller l'offrir au temple. On prenait un agneau de ses troupeaux. Au début de l'Église, les fidèles, au moment de l'offertoire, apportaient au prêtre, en procession, pendant le chant de l'antienne, la matière qui allait être consacrée. Ils offraient le pain, ils offraient le vin. Le prêtre en prenait une partie qu'il allait consacrer, et le surplus, il lui donnait une bénédiction, et c'est l'origine du pain béni qu'on offre quelquefois après la messe. Donc c'était les fidèles qui apportaient la matière qui allait servir au sacrifice. Petit à petit, à cause d'une question de facilité, cela a été remplacé par de l'argent. Mais comprenez bien le sens de la quête, chers fidèles. Comprenez bien le sens des honoraires de messe. Vous ne faites pas un don au prêtre. Vous n'achetez pas la messe, on n'achète pas le sang du Christ. Quand vous donnez un honoraire de messe, quand vous donnez à la quête, vous participez au sacrifice. C'est la partie de vos biens que vous voulez immoler en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux choses, les sacrifices et la dîme. Eh bien, on peut dire que dans le Nouveau Testament, il y a aussi deux choses. Il y a la quête ou les honoraires de messe, et ça, c'est la partie que vous voulez sacrifier à Dieu. Et il y a le donner du culte, et c'est pour aider les prêtres. Et comme autrefois, une victime était consumée en l'honneur de Dieu, une partie était mangée par le prêtre, et une partie par celui qui offrait, eh bien, de nouveau, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. À la quête, une partie est réservée pour le culte, pour acheter les cierges, renouveler l'huile de la présence réelle, pour acheter les hosties ou le vin, etc. Une autre partie sert au prêtre, et enfin, vous allez communier au sacrifice normalement. Il y a aussi, comme union matérielle au sacrifice, les réponses à la Sainte Messe. Les réponses et le chant. C'est une participation à la Sainte Liturgie. Et d'une manière tout à fait spéciale, le « Amen » que vous dites à la fin du canon. Pendant tout le canon, le prêtre est en silence, comme Jésus sur la croix. Et à la fin de ce moment le plus important de la Sainte Messe, où il y a la double consécration, le renouvellement non sanglant du sacrifice, il y a la formule de conclusion et tous les fidèles répondent « Amen ». C'est une ratification, c'est une participation, vous dites « Oui » à ce sacrifice. Vous voulez y assister, y participer. Donc ce « Amen-là » est très important, chers fidèles. Maintenant, l'union spirituelle. On a coutume de dire que la goutte d'eau que l'on met dans le calice symbolise nos souffrances, nos peines, nos difficultés, nos croix. C'est tout à fait exact. Mais il faut l'offrir. Il faut qu'à chaque messe, vous puissiez mettre sur la patène en esprit toutes vos souffrances, toutes vos douleurs, toutes vos croix, que vous n'oubliez pas de les offrir pendant la messe. Il y a aussi, bien sûr, s'offrir soi-même en s'unissant à cette grande oblation du Christ qui offre son corps mystique, s'offrir pour la croix. Quand on quitte la messe, dans la semaine, lorsqu'il y a des croix qui arrivent, on devrait se dire « c'est normal ». Dimanche dernier, à la messe, j'ai ratifié à l'avance tout ce qui pouvait m'arriver. Je me suis offert avec le Christ pour la croix. Ce qui serait anormal, c'est qu'il n'y ait pas de croix pendant la semaine, c'est qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de tribulation. À la messe, vous dites le oui. Et pendant la semaine, notre Seigneur vous exauce. Alors, il faut faire bonne figure à la croix pendant la semaine. Donc, offrir ses souffrances, s'offrir soi-même avec notre Seigneur, enfin, offrir en union avec le prêtre le précieux sang du Christ. Le caractère du baptême vous en donne le droit. C'est ce fameux passage de l'épître de saint Pierre dont les modernistes usent et abusent et en détournent le sens. Mais vous, dit saint Pierre, vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Certes, Vous ne participez pas au sacerdoce du Christ comme un prêtre. Vous ne pouvez pas célébrer la messe. Mais par le caractère du baptême, vous pouvez co-offrir, comme la Sainte Vierge Marie l'a fait au pied du calvaire. Vous pouvez vous unir au prêtre pour offrir à Dieu le Père les plaies de Jésus, son précieux sang, son sacrifice, ses mérites. Pour ceux qui connaissent Sœur Josepha Menendez, un appel à l'amour, toutes les prières que notre Seigneur Jésus-Christ révèle à Sœur Josepha tourne autour de ce mystère central. Sans arrêt, Jésus lui demande d'offrir ses plaies, son sang, ses mérites, son sacrifice, les messes qui se célèbrent dans le monde entier. Alors, pour conclure, Jésus a voulu tirer son sang de sa très sainte mère. Rappelons-nous aussi que ce sang divin a coulé sous les yeux de Marie au calvaire. Mépriser ou abuser de ce sang divin, c'est la pire injure que nous puissions faire à Notre-Dame. C'est la plus grande blessure que nous puissions faire à son cœur immaculé. Mais en profiter dans la Sainte Communion, savoir s'unir à elle dans l'offrande qu'elle en fait à la messe, c'est sa plus grande consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.